voudrais vous raconter l'histoire de la musique, ou plutôt l'histoire d'un homme. Un homme qui a toujours senti en lui un tumulte de vent contraire, quelque chose comme un trouble dans son identité, un trouble et même une cacophonie. Sa sensibilité réclame quelque chose quand sa raison exige le contraire. Il aspire consciemment à ceci quand son inconscient exige cela. Comme tout le monde, me direz-vous, mais lui, il le sait, il le sent, il ne se ment pas. Il a toujours été fasciné par ceux qui savent qui ils sont et tiennent en général à bien le faire savoir. Ceux qui connaissent clairement leur identité et n'ont rien trouvé de mieux que d'être fiers de ce qu'ils n'ont pas choisi. Lui n'a pas cette chance. En lui, la douceur et la violence se font la guerre, comme sa part obscure et sa part solaire, sa part réaliste et sa part mystique, sa part juive et sa part catho, l'Afrique du Nord et le Limousin. Il est éclaté, multiple, hétérogène, hétéroclite, complexe et pas simplement compliqué. Il a cette impression parfois que la société ne l'autorise pas à être ainsi, qu'il faut qu'il se simplifie, qu'il se présente sous un jour unifié pour qu'on puisse l'identifier, le reconnaître à cette étiquette sur son front, là, bien planté, bien vissé, son identité. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Alors bien sûr, il y a le divan. Il lui arrive parfois sur le divan de laisser souffler ses vents contraires. Il y a les musées aussi. Devant certains tableaux, un autoportrait de Rembrandt par exemple, il lui est arrivé de cesser de se mentir. Il y a l'amour, bien sûr, le rare, le brûlant amour, celui qui nous donne la force de cesser de jouer et de tomber le masque. Il ne sait toujours pas qui il est, mais il s'en fout, puisqu'elle l'aime, puisqu'elle le porte et le transporte vers un autre moi, celui qu'il révèle et devient dans ses bras. Mais plus encore que le divan, plus encore que les tableaux, bien plus que les tableaux, peut-être même plus encore que l'amour, il y a la musique. Rock'n'Roll Suicide de Bowie, A Day in the Life des Beatles, La Vida Tombola, pourquoi pas, de Manu Chao, et voilà que toute sa complexité a enfin droit de citer. Voilà que se mettent à danser toutes ses parts de lui-même. Il est à la fois dark et solaire, doux et vénère, conscient et inconscient, limousin et africain. Ce que le divan fait en 10 ans, ce que l'amour fait en 2 ans, une bonne chanson le fait en 2 minutes. Mais comment est-ce possible? D'où vient ce pouvoir de la musique? Pourquoi la musique, quand elle est bonne, nous fait-elle tant de bien? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir André Manoukian, l'apatride Manoukian, qui est pourtant bien chez lui, ici, au fond de la caverne de France Inter, et qui nous a rejoints sous le soleil de Platon pour nous apporter ses lumières.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
André Manoukian, bonjour. Quelle joie de vous recevoir.
Bonjour Charles, merci de m'inviter.
Est-ce que vous allez bien?
Je vais très bien, mais qui est ce personnage dont vous avez parlé, qui me ressemble et qui n'est pas moi?
Voilà une bonne question. Je sais que vous n'avez rien à voir avec le Limousin, ni d'ailleurs l'Afrique du Nord. Vous, c'est plutôt l'Arménie.
Oui.
Mais est-ce que vous êtes senti un petit peu concerné par ce mélange?
Mais complètement. Je pensais que c'était moi jusqu'à ce que vous ayez dit Afrique du Nord et Limousin. Effectivement, là, bon.
Ça, c'était moi. J'avais envie qu'on partage un truc. Est-ce que cette espèce de on va dire de mélange en fait, de mélange identitaire qui fait que justement nous ne sommes pas comme ça identiques à nous-mêmes, c'est quelque chose qui vous a parfois pesé en plus de vous rendre léger?
Ah, alors je me suis posé plein de questions dans toute mon enfance, mais quand vous savez, quand vous êtes enfant, vous posez des questions sans savoir sans pouvoir les formuler. Je sentais que j'étais différent de mes copains, j'étais élevé à Lyon dans un quartier plutôt bourgeois et j'avais juste une seule envie, c'était d'être comme tous les copains de ma classe, mais il y avait une petite différence que je ne savais pas dire. Quand j'allais chez eux, je voyais des portraits de grands-parents qui étaient, et chez moi, il n'y en avait pas puisque je les ai pas connus, puisque voilà, je sentais qu'il y avait pas d'enracinement dans ce pays, et pourtant je faisais tout pour être voilà le premier de la classe. Oui. Mes parents travaillaient, donc ils rentraient tard le soir du magasin, donc moi j'avais pas.
Quel magasin?
Marianne Couture et Cour Gambetta à Lyon, c'est le prénom de ma sœur, et voilà, ma mère, on l'appelait Madame Marianne puisque c'est elle qui vendait, et mon père était à l'atelier derrière avec les filles, il coupait avec le maître autour du cou, et c'est une enfance heureuse, mais vous vous rendez compte que j'ai demandé à ma mère d'aller au catéchisme et d'aller chez les scouts parce que c'était
pour faire comme tout le monde.
Pour faire comme tout le monde, c'était des rites de passage et tout, et je m'emmerdais prodigieusement. Et j'ai mis du temps à trouver ma tribu, il a fallu attendre l'âge de 17 ans, que je change de lycée, que j'aille au grand lycée Ampère, j'étais au petit lycée Ampère-Saxe de quartier, Et là, le jour de la rentrée, il y avait une bande de gars qui avaient des drapeaux rouges, des lunettes cerclées d'acier. Il y avait des filles qui avaient des petits foulards qui sentaient le patchouli. J'ai rien compris à ce qu'ils disaient parce que c'était une bouillie de mégaphones. Mais je les ai reconnus en un quart de seconde. J'ai dit, ce sont eux, mes frères.
Quoi, et voilà. C'était des quoi? Ils faisaient de la musique?
Non, c'était des gauchistes. C'était génial.
C'est ça. La, ouais. Mais donc, vous avez aimé finalement appartenir quand même à ce groupe-là, un groupe d'élection.
Ah mais oui, enfin, et surtout j'avais choisi mon groupe, c'était ça qui était cool quoi, c'était mon propre, enfin ou peut-être qu'eux m'avaient choisi, mais c'était organique. Honnêtement, je ne comprenais rien à ce qui se disait. Ouais. C'est après que je me suis politisé comme on dit, mais c'est surtout c'était tribal. J'ai lu la même chose dans L'enfance d'un chef de Sartre.
Oui, bien sûr.
Et c'est le contraire, quoi. Enfin, puisque c'était un jeune garçon qui était vraiment, lui, pour le coup, perturbé, et qui, un jour, il va pour se suicider, et il voit une bande de gars, mais eux, c'est plutôt des fascistes, qui sont en train de massacrer un Levantin, donc un mec basané par terre. Et cet acte-là lui déclenche quelque chose, il va se mettre au milieu d'eux, il va taper encore plus fort que les autres, et il va devenir un chef fasciste.
Mais est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment finalement s'inventer librement? Parce qu'au fond, la thèse de Sartre, dans L'enfance d'un chef, c'est ça. C'est qu'il a été... un enfant premier de la classe, il a été très sage, et puis finalement il va s'inventer comme chef de bande. Et est-ce que vous pensez qu'on peut s'inventer complètement, comme vous avez semblé le faire finalement en vous identifiant à cette bande de gauchistes alors que vous veniez d'un autre univers? Ou est-ce que finalement on n'est pas plus tenu comme ça par des choses qui nous empêchent cette liberté, qui entravent cette liberté?
Moi je crois que j'ai pas eu le sentiment de m'inventer, j'ai eu le sentiment de rencontrer. Enfin voilà, c'est cela. C'est avec cela que j'ai envie d'être, et on sait pas pourquoi. Alors il y a d'autres phénomènes qui arrivent sans doute, je sais pas, quelque chose de physique, comme ou des couleurs, ou quand je vois mes gamins maintenant qui zappent à une vitesse inouïe sans pouvoir voir le titre de ce ils sont peut-être attirés par des couleurs, c'est des codes, on sait pas, c'est instinctif, je dirais que c'est carrément animal, c'est de l'ordre tribal.
Alors il y a une question que j'ai envie de vous poser qui fera résonner ce que vous venez de dire. Alors évidemment vous êtes pianiste, compositeur, musicien, chroniqueur aussi sur France Inter, auteur récemment de ce très beau livre chez HarperCollins, Sur les routes de la musique. D'où la question que je voulais vous poser et qui était celle de ma petite chronique d'entrée. Question énigmatique, au fond tellement mystérieuse, mais pourquoi la musique nous fait-elle autant de bien?
Parce que c'est de la physique pure, là aussi, et que ça ne passe pas par la raison, ça passe par le corps. C'est Gilles Deleuze, ça fait longtemps que j'avais pas parlé de lui, qui dit la musique provoque des affects. Les affects, c'est quoi? C'est des transformations physiques du corps. D'où la chair de poule. Moi, perso, c'est la transpiration de la moustache dès qu'une fille chante Fever en tapant des doigts à contre-temps. Mais ça passe pas par la tête, on sait pas pourquoi. On est ému, on est transporté. On est ravi à soi-même, comme dit Jean Kelevitch dans ce petit bouquin que je conseille, qui s'appelle La musique et l'ineffable, où finalement il dit tout sur la musique. Et c'est peut-être pour ça que les philosophes n'aiment pas beaucoup la musique. Et voilà, je suis désolé de vous dire que le patron de cette émission, donc Platon, lui, il avait horreur de la musique et de ses inflexions langoureuses qui ramollissaient les hommes. Ouais. La musique... c'est comme un massage, je dirais, de toutes vos cellules. Alors, il y a des explications scientifiques maintenant, puisque tout vibre à l'intérieur de nous, et que tout d'un coup, c'est une vibration qui pourrait peut-être mettre de l'ordre dans nos vibrations internes.
Ouais, ou peut-être accepter le désordre, au fond, et faire avec.
Alors ça, c'est un autre style de musique, effectivement. On peut penser à la musique punk, à la musique des ados qui, tout d'un coup, ont trouvé un canal pour exprimer leur violence. Mais je dirais que toutes les passions humaines sont représentées dans la musique, mais pas à l'état, justement, de représentation rationnelle.
Oui, c'est ça. Donc, là, il y a une thèse que j'aime bien, j'aimerais bien savoir ce qu'elle vous inspire. C'est la thèse de la polyphonie qui serait propre, au fond, à toute musique et qui ferait une chambre d'écho à notre complexité. Autrement dit, il y aurait différentes parts de nous-mêmes que la polyphonie de la musique pourrait permettre de faire danser de concert, alors que les autres activités ne procureraient pas cette émotion. Ce qui impliquerait une supériorité de la musique sur les autres arts, notamment sur la peinture et même sur la littérature. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Waouh, vous venez de m'éclater là, c'est formidable. Parce que justement, il y a toute une chorale à l'intérieur de moi-même. Il y a plusieurs voix qui peuvent être divergentes et j'ai plutôt... Et finalement, oui, c'est ça la polyphonie. C'est quoi la polyphonie ? On a tendance à penser qu'elle est née au XIVe siècle avec l'école flamande.
Vous pouvez la définir peut-être ?
Alors maintenant, on s'est aperçu qu'il y a des polyphonies depuis, notamment grâce au travail. Alors la polyphonie, c'est chanter à plusieurs voix. Donc c'est un travail qui est assez complexe et qui nécessite une science harmonique assez un peu balèze, on va dire, si on veut écrire une jolie partition sans trop de dissonance. Et les règles de la polyphonie ont été établies à partir des 13e, des 14e, avec des compositeurs incroyables. Et ça se passe plutôt dans le Nord. Et puis ensuite, ça va aller en Italie avec Monteverdi, etc. Mais surtout, c'est un chant choral qui est formidable parce que tout d'un coup, vous avez une forme d'harmonie qui vous saisit. Alors l'harmonie, c'est aussi, c'est pareil, c'est de la pure physique.
Oui, vous dites d'ailleurs dans votre livre, la musique, c'est des maths avec de l'éros.
Ouais. C'est deux pulsions. Il y en a une troisième, c'est la spiritualité. Donc c'est des mathématiques, de l'éros et de la spiritualité. Donc c'est un peu compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Mais alors revenons à la polyphonie. Vous avez des accords qui sont formidables et qui marchent bien, qu'on appelle les accords parfaits, parce que dans une seule note sont impliquées d'autres. Une note porte en elle-même des notes cachées. Et ces notes cachées, on en a la préscience plus ou moins. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve qu'un accord parfait est joli et qu'un accord avec des secondes est plutôt dissonant. Bref, voilà, ça c'est fait. Mais, donc, il a fallu toute une science et puis avancer pas à pas avec des accords interdits pour arriver à nos polyphonies à nous. Mais, il y a des polyphonies spontanées dans les peuples premiers, notamment chez les pygmées, notamment en Polynésie, etc. Et là, on se dit, là, il n'y avait pas de règles. Donc, encore une fois, c'est le physique qui parle, qui s'exprime, mais c'est surtout, ça concerne une pratique collective. Il y a une joie collective qui se met en route. Je ne chante pas la même chose que mon voisin, mais j'écoute ce qu'il chante quand même.
Et pourtant, nous sommes ensemble.
Exactement, pour m'accorder à lui. Voilà.
Alors quand je pensais à la polyphonie, ça c'est au sens propre de différentes voix, comme une polyphonie corse par exemple, mais on peut aussi l'entendre dans un sens plus simple, qui est que dans une musique, mettons un groupe de rock, il va y avoir, je sais pas, de la batterie, il va y avoir la guitare, la basse, le chant, les violons, et que tout ça parle aux différentes dimensions de ceux qui écoutent. Par exemple, avec le rythme, on a, je sais pas, l'insistance et la persévérance. Avec la guitare, on a le côté nonchalant. Avec la basse, on a le côté insistant. La voix, on a le côté lyrique. Et que finalement, seule la musique nous offre autant d'occasions, finalement, d'être convoqués dans notre complexité. Est-ce que ça, vous seriez d'accord avec ça? Ou est-ce que vous n'auriez pas envie de dire « Oui, mais je suis pas d'accord, il y a des grands romans qui marchent comme ça, il y a des tableaux, des films qui, finalement, nous apportent autant que des chansons ou des grands morceaux de rock ?»
Moi, je crois qu'il y a peut-être que votre approche elle est un tout petit peu trop analytique parce que finalement, même si les instruments sont différents, le batteur, la batterie, la basse, la guitare, les claviers, tous racontent la même chose finalement à différentes strates. Je dirais que c'est plutôt comme un seul corps dont on comparerait, on va dire que la batterie c'est les pieds, on va dire que la guitare c'est plus instinctif, c'est le ventre, on va dire que le pianiste c'est plutôt la tête puisqu'ils sont un peu plus cérébraux. Je vois un groupe comme un corps en fait, et pas comme des parties différentes qu'il faudrait joindre. Donc c'est comme ça que ça marche, parce que si c'est pas un seul corps, ça marche pas. Là, le miracle des groupes, et c'est pour ça que les grands groupes de musique se sont connus au lycée parce qu'ils étaient ados et tout ça, c'est qu'ils sont non seulement dans l'instinct, mais c'est que
c'est une rencontre, quoi.
Voilà, exactement. C'est une rencontre qu'on n'arrive pas trop non plus à formuler, mais on sait qu'à l'intérieur du groupe, chacun a pris sa partie plus ou moins naturellement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que un instrument, a un caractère. Le bassiste, il est toujours calme. Il est toujours très discret. C'est celui qui parle le moins. Le batteur, c'est celui qui fonce sur les gonzesses pour les draguer, mais alors avec
le bassiste, c'est plutôt les gonzesses qui font sur lui.
Il reste à l'écart, il est sombre, il est beau, il est romantique, etc. Le pianiste, lui, tombe amoureux des chanteuses, voilà. Le guitariste, lui, pendant qu'il joue, il est en train de regarder les filles au premier rang et il est en train de faire... Bon, donc tout ça pour dire quoi ? Qu'il y a des caractères. C'est un musicien choisit pas un instrument par hasard. C'est la même chose en classique, quoi, avec les flûtes, avec les violons.
Et comment ça s'est passé votre rencontre avec le piano ?
Ma rencontre avec le piano, il y a un piano à la maison et mon père joue quand il rentre du magasin les inventions de Bach. Et ça, c'est Et du coup, c'est ma petite musique à moi et je le regarde jouer et j'ai de la chance parce qu'il joue pas très bien. Donc du coup, pour moi, c'est prenable.
Ouais, il y a pas trop de complexe, quoi. C'est pas inaccessible.
Ouais, exactement. Et je le vois déchiffrer sagement et tout. Du coup, c'est cette pratique-là que j'ai.
C'est très beau. Ça veut dire qu'il vous donne envie dans la mesure où il n'est pas parfait, justement.
Exactement.
Alors, on va écouter quelque chose qui devrait vous parler. C'était évidemment le grand Ray Charles, What I Say. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je voulais proposer, c'est qu'il a improvisé, au fond, c'est un morceau improvisé, il montre à quelqu'un comment faire, et c'est devenu ce tube. Et justement, j'aimerais lire un passage de votre livre sur les routes de la musique, où vous parlez très bien d'improvisation. Et écoutons-le, et puis après, je vous pose quelques questions sur la vie. Est-ce que la vie n'est pas, au fond, qu'une grande improvisation? Alors, je lis André Manoukian sur les routes de la musique. On enseigne l'improvisation. C'est-à-dire l'art de s'exprimer en musique. Comment ? En éprouvant la gamme, en sensibilisant les enfants au rapport de force entre les degrés faibles et les degrés forts, en éprouvant physiquement la force d'attraction qui attire les notes entre elles. Et d'ailleurs, si on dit jouer de la musique, c'est qu'il y a du ludique dans cette affaire, de l'amusement, de l'expérimentation. Quand on prétend que le petit Wolfgang composa ses premières mélodies à l'âge de 3 ans, c'est faux. En réalité, il s'amusait, il cherchait. Et c'est son père qui notait sur des partitions les recherches du bambin, car à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. L'enfant Mozart n'a qu'une contrainte. En l'absence de son père, il n'est pas autorisé à jouer du clavecin. Instrument coûteux, fragile, compliqué à accorder. Un jour que Léopold rentre chez lui, il entend Wolfgang tapoter sur le clavier. Il se précipite sur lui, menaçant et furieux. « Que fais-tu ? Je t'avais interdit !» Le bambin de 3 ans répond « Je cherche les notes qui s'aiment. » Attendez, et nous écoutons maintenant « Apatride » d'André Manoukian. Voilà des notes qui s'aiment, André.
Oui, il est énervant, le petit Mozart, parce qu'à 3 ans...
J'ai quand même fait un fondu enchaîné entre Mozart et vous. Et
oui, alors là, je suis... Je sais pas si je mérite, mais voilà, merci, c'est...
Est-ce que vous cherchez les notes qui s'aiment, vous ?
Oui, je les ai cherchées aussi pendant longtemps et je continue à les chercher. Et maintenant, je cherche les notes qui se détestent. Et
les notes qui piquent, vous écrivez aussi.
Exactement, les notes qui piquent. Et parce que quand vous jouez des notes qui piquent, c'est-à-dire en jazz, on dit on joue out. Vous jouez en dehors de la tonalité. Donc, toutes les notes interdites. Mais tout d'un coup, quand vous atterrissez sur les notes qu'il faut, là, vous avez un sentiment de waouh, comme si vous aviez fait des loopings et puis que tout d'un coup vous vous remettez sur le dos. C'est les vertiges de la musique, jouer avec les tensions, jouer avec les résolutions. Là où il est emmerdant, le petit Mozart, c'est qu'à 3 ans, il fait la plus belle définition de la musique qui soit.
C'est fou.
C'est vraiment ça, quoi.
Mais alors, il y a des très belles pages dans votre livre sur l'improvisation. On découvre que les musiciens classiques, au fond, improvisaient Bach, Beethoven. Et ça, c'est incroyable parce qu'en fait, on ne le sait pas et on découvre un autre rapport à la musique et finalement à la vie.
Mais oui, c'est fou. Il y a une fin de 19e siècle extrêmement funeste pour tout ce qui est je dirais les arts et presque la pensée d'une certaine manière dans les... On appelle nos écoles de musique des conservatoires. Bon, ça, c'est déjà la Révolution française qui va mettre ça, parce que tout d'un coup, on commence à avoir la notion de patrimoine musical. Avant ça, on ne jouait pas la musique des morts. Jean-Sébastien Bach est oublié aussitôt qu'il n'est plus là. L'idée, c'était vraiment d'aller vers le nouveau. Et les partitions des anciens... personne ne les gardait, quoi. Les éditeurs devaient les avoir et tout.
Donc conservatoire, ça veut dire qu'on va conserver.
Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a un patrimoine. Donc du coup, on va dire, on va partir à la recherche de ces réservoirs formidables d'œuvres du passé. On va en profiter pour éradiquer tous les noms de compositeurs qui commencent par un prénom féminin, en disant bah non, c'est pas possible, ou ça devait être le frère ou le mari.
Donc il y avait en fait beaucoup de femmes, en vrai.
Et évidemment, quand vous regardez un tableau du 18e siècle qui représente des musiciens, vous avez des filles qui jouent du clavecin, de la harpe, de la flûte, tous les instruments pratiquement. Comme à l'époque on apprenait l'improvisation, bah ces filles, comme les garçons, savaient improviser, donc savaient jouer. Donc c'est quoi une composition ? C'est une improvisation qui est notée et qui est un petit peu plus travaillée. Mais il y avait la musique qu'on appelle classique aujourd'hui était plus que vivante, elle était éprouvée, la partition servait à la fixer.
Et d'ailleurs, vous racontez une scène géniale où il y a, alors, je sais plus lequel, un roi ou un empereur qui a composé quelque chose de très...
Frédéric II, qui a composé une vraie bouse et qui la soumet à Jean-Sébastien Bach.
Et c'est là que Bach improvise, en fait.
Et il improvise. Et
de la bouse.
Ce qui va devenir l'offrande musicale, un des plus beaux morceaux du répertoire.
Ouais. Mais alors, justement, comment on apprend à improviser, finalement?
Ben, moi, j'ai galéré, si vous saviez. J'ai commencé par le classique à l'âge de 6 ans. À 14 ans, je découvre Fats Waller et pour moi, c'est le ragtime, c'est Jean-Sébastien Bach avec du rythme. Mais je savais pas improviser. J'allais au Hot Club de Lyon puisque j'étais lyonnais et je voyais les pianistes qui jouaient pendant des heures et avec des partitions comme des tickets de métro où il y avait des petits signes kabbalistiques C, 7, 9 bémol.
Ah oui, donc vous aviez une formation en fait classique.
Oui.
Et là, soudain, vous découvrez quelque chose qui, c'est quoi? C'est la liberté? C'est le risque? C'est l'audace? C'est quoi?
Ah ben, je m'en souviens encore. J'ai eu envie de pleurer. J'étais très, très, très ému parce que ce sont encore une fois les harmonies de Bach. Mais c'est ça l'histoire du gospel. On vient d'écouter Ray Charles. C'est-à-dire que c'est les chorales de Bach, les chorales protestants avec du rythme, avec donc tout d'un coup cette, parce que je continue à aimer passionnément la musique classique, je ne fais aucune différence entre l'une ou l'autre. Pour mon, comme disait Duke Ellington, il y a deux sortes de musique, la bonne et la mauvaise. Donc on,
Mais d'ailleurs, je vous interromps parce que c'est une question que je me suis tout le temps posée. Quand la musique est bonne, elle nous fait un bien fou. Mais quand elle est mauvaise, elle est insupportable. Pourquoi c'est si insupportable, la mauvaise musique?
Parce que ça nous agresse physiquement, parce qu'il y a des vibrations qui provoquent de la douleur. Chez les Romains, il y avait une torture qui consistait à rassembler 300 joueurs de flûte en roseau qui étaient fatalement désaccordés, et le martyr chrétien était au milieu et il mourait dans d'atroces souffrances, et les autres, ils avaient de l'étoupe dans les oreilles naturellement, quoi.
C'est terrible. C'est à se demander si, s'il n'y a pas, on va dire d'un point de vue plus métaphysique, une sorte de vérité du monde, quoi, de vérité totale, de l'être, qui serait musicale.
Et oui.
C'est peut-être pour ça que la musique nous toucherait autant. D'ailleurs, au niveau intra-utérin, on ne vit que dans un monde de sons. Il n'y a pas encore d'odeur, il n'y a pas encore d'image. Il n'y a que des sons. Dans votre livre, vous en parlez très bien, notamment de ces deux instincts qui seraient l'apollinien et le dionysiaque. Quand on vous a écouté jouer Apatride, ça c'est plutôt apollinien, non?
Oula.
Déjà, définissons l'apollinien et le dionysiaque.
Alors, la musique apollinienne, c'est la musique qui tend vers la spiritualité, vers l'individuation. Donc, c'est plutôt une musique, je dirais, dénuée d'artifice, qui va à l'essentiel, qui est assez pure, qui est à une seule voix. Et donc, qui vous met dans un état de, où tout d'un coup, vous pouvez acquérir des notions de ce que serait une forme de transcendance juste en écoutant cette musique-là. La musique dionysiaque, c'est tout le contraire. C'est une musique rythmée. C'est la musique du sol, de la terre, et qui vous fait perdre la conscience. Il y en a une qui vous élève la conscience pour aller, hein, en théorie sur la conscience cosmique. L'autre vous fait perdre la conscience de vous-même, et vous retrouvez votre animalité, vous retrouvez l'immersion dans le groupe. Et ce qui est formidable, c'est que chez les Grecs, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas une chez Platon, il y a. Voilà. Oui. Lui, il n'aime que la musique apollinienne. Mais les Grecs vivent, c'est ça qui est formidable dans le polythéisme, c'est qu'on a besoin de toutes ces énergies-là. Et c'est qu'un homme,
ben, et on a besoin peut-être de la synthèse, au fond. D'être dans une expression du dionysiaque, donc de la puissance comme ça, sauvage, mais qui serait rythmée, spirituelle, qui serait apollinienne. Moi, j'ai plutôt l'impression, j'ose le dire, que quand on vous écoute jouer Apatride, il y a quelque chose de dionysiaque, mais exprimé de manière apollinienne.
Pas mal, pas mal. Mais évidemment, la musique a les deux. Ce qui serait apollinien, ça serait quoi? Ça serait la mélodie, ça serait cette phrase un petit peu pure au début, dans les aigus du piano et tout. Et puis ensuite, il y a la batterie qui rentre quand même, et puis il y a une pulsion qui va se mettre en place. Et tout ça va prendre corps et chair, quoi. Ce que j'aime pas trop, le problème de la musique apollinienne et dionysiaque, de cette distinction qu'ont fait les Grecs, c'est qu'après, chez les chrétiens, ça va dégénéré en musique de Dieu et musique du diable. Et on va retrouver ça, y compris chez les Afro-Américains qui vont être christianisés. Il va y avoir la musique de Dieu qui est le gospel, la musique du diable qui est le blues. Et Ray Charles, qu'on vient d'écouter, a fait une transgression incroyable. Il a pris un gospel et il lui a mis des paroles profanes d'amour dessus.
Ça, ouais.
Et sa frangine, quand elle découvre ça, elle lui fait mais tu es en pur blasphème, qu'est-ce que tu es en train de faire?
Parce qu'on est bien d'accord que le morceau qu'on a écouté, What I Say, il est en train de montrer à quelqu'un comment jouer, et il dit répète ce que j'ai dit, c'est ça?
Ouais. Alors ça aussi, on l'entend quand tu fais et les autres qui répondent. Ça s'appelle le call and response. Call and response, et il y a un récitant qui dit une phrase et tout le groupe la redit. C'est une pratique qui est africaine, qui date de longtemps. Il y a le sorcier qui se met au milieu ou le chanteur, et le groupe répond. Ça fait vraiment partie des archétypes. Et puis plus tard, à la messe, c'est le passeur et puis les ouailles qui répondent, et ça crée une dynamique d'un être ensemble. Il n'y a pas un gars qui fait une conférence et qui impose sa voix aux autres, ou les évangiles, ou que sais-je. Il y a comme un questionnement.
Puis il y a aussi un appel. On essaye d'entrer en contact. On dit voilà, répète après moi, on essaye d'entrer en contact avec quelque chose. Est-ce que c'est pas aussi ce qu'on essaye de faire quand on improvise? De se mettre en contact avec autre chose que soi?
Waouh! Alors là, l'improvisation, c'est techniquement, c'est partir d'un thème et puis ensuite broder dessus. Moi, je dirais que la pratique qui ressemble le plus à l'improvisation, c'est les commentaires du Talmud. Et c'est pour quand j'étais petit, j'étais fasciné par une émission qui s'appelait La Bible ouverte, où je voyais le rabbin Heisenberg parler avec Elie Wiesel. Je ne comprenais rien à ce qu'il se disait, mais il y avait une ligne qui était écrite, une ligne de la Bible qui faisait 15 mots, et les gars, ils étaient pas capables de parler pendant une heure dessus. Et je dirais que l'improvisation, et je crois qu'après, ce qui m'a plu aussi dans le jazz, c'est ça. Vous prenez un thème, et puis vous improvisez dessus, vous en faites. Au fond, d'une certaine manière, là encore, il y a du jeu. Du jeu au sens gamin du terme, comme Mozart, il joue avec des notes. Vous saisissez d'une pensée, vous la décortiquez, vous la mettez à l'envers, vous la mettez à l'endroit.
Et l'improvisation, c'est se promener autour d'un thème.
Exactement. C'est s'approprier la phrase de quelqu'un et la désosser, la déstructurer, ou jouer avec, la mettre en résonance, la multiplier, en faire comme des petits cailloux d'un kaléidoscope avec un jeu de miroir.
C'est trouver une liberté, mais quand même dans le respect d'une contrainte.
Il y a pas de contrainte. L'improvisation, c'est plutôt vous vous baladez sur une plage et vous voyez des objets qui sont là, puis vous essayez d'en faire quelque chose. Et on vous dit, tiens, c'est là que ça se passe. C'est la contrainte, elle est que les mots qu'on vous impose, mais vous les choisissez aussi, les mots. Donc je dirais que l'improvisation, c'est la pensée qui s'amuse et qui jouit.
Mais si on voit l'improvisation comme une balade, comme ça, autour d'un thème, est-ce que c'est pas une belle métaphore de l'existence? Au fond, est-ce que l'existence n'est pas une grande improvisation?
Eh ben si, puisqu'on est sans arrêt en train de réagir par rapport à des choses qui vous arrivent, et du coup d'être un grand improvisateur, ça vous donne la qualité de ne jamais être désarçonné, mais de pouvoir avoir du répondant, au sens littéral du terme, par rapport à quelque chose tout d'un coup qui se présente devant vous.
Mais j'aurais envie d'ajouter quand même, pour reprendre votre propre métaphore, ok, on improvise, et dans la vie il faut improviser parce qu'on est surpris, parce qu'il y a de l'imprévu, mais il y a quand même un thème. Ce serait quoi le thème autour duquel on improviserait en tant qu'individu?
Alors, il y a un thème qui est donné par quelqu'un d'autre. C'est ça le principe de l'improvisation. Les concours d'impro, c'est quoi? Si vous les voyez dans la ligue d'improvisation, c'est il y a un thème, mais le thème n'est pas choisi par celui qui va improviser, il vous est imposé. Donc du coup, ça vous donne aussi, encore une fois, je vous dis, c'est cette manière de vous armer par rapport à des choses qui vous arrivent. Mais, et là où vous avez raison, c'est que ça demande énormément de technique.
On apprend.
Et ça s'apprend, exactement. Il y a des règles. Je dirais, je fais souvent cette comparaison avec le ski parce que j'aime bien la montagne et tout ça. Il faut bouffer du piquet, c'est-à-dire il faut faire des slaloms très précis, très courts, avant de se lancer dans ce qu'on appelle le free ride, c'est-à-dire des grands champs où on peut réagir. Parce que là, pour le coup, votre vie, elle est en danger. Quand vous êtes sur une piste avec des piquets et des balises et que vous avez fait ça pendant des heures et des jours et des mois et que vous avez des cuisses comme des poteaux et que vous êtes balèze, après, vous pouvez aller faire du freestyle, du freeride.
Et ben justement, je vous propose d'écouter dans un autre genre un autre freerider, Edouard Baird.
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci Hélène.
Alors voilà, c'était Edouard Baird dans Astérix. Alors je raconte un peu l'histoire, elle est assez connue, c'est devenu assez culte. Il a complètement improvisé ce passage qui restait dans le film, et qui est devenu une sorte de mème sur Internet. Donc là il improvise, il part en live, quoi. Il est en freeride. Mais ma question, je me pose toujours par rapport à l'improvisation, c'est, en fait, il se passe quoi? Il est plugué sur quoi? Il est connecté à quoi quand ça part comme ça, est-ce que c'est un peu ce qui se passe quand vous improvisez au piano?
Mais il y a une situation. À la base, la situation, il le dit lui-même, c'est la vie, c'est des rencontres. C'est une rencontre qui va vous mettre dans un état et qui va faire que vous allez réagir. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous restez passif, sans réagir, ou que vous êtes timide, ou que vous n'osez pas, ben, la rencontre, vous passez à côté, parce c'est que vrai. Tout d'un coup, l'autre, il va dire, tiens, il résonne pas, celui-là, et tout.
On nous apprend pas, en fait, à accueillir cet imprévu de la rencontre. On nous apprend à anticiper, on nous apprend à préparer, on nous apprend à être dans l'anticipation rationnelle. Est-ce que finalement, on ne devrait pas désapprendre tout ça pour savoir improviser et accueillir l'imprévu des rencontres ?
C'est très beau ce terme que vous dites, désapprendre. Moi, j'ai été obligé de désapprendre. Quand j'ai appris l'improvisation, j'étais obligé de parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas d'école de jazz dans les conservatoires. Maintenant, il y en a, Dieu merci. Donc, j'étais obligé d'aller à Boston, à la Berklee School of Music. Et quand je suis rentré, j'ai mis autant de temps à désapprendre tout ce que j'avais appris parce que du coup c'était trop technique et scolaire. C'est quoi une impro? C'est des gammes, c'est des chants à l'intérieur duquel vous prenez n'importe quelle note et ça sonne. Donc il faut toutes les connaître, il faut les monter, il faut les descendre, etc. Bah, avant d'en faire un art, bah, tout d'un coup il y a un moment donné où, ok, vous savez où vous pouvez aller, où vous avez le droit d'aller, mais tout d'un coup c'est une voix de l'intérieur qui va vous tracer le chemin et qui va rendre ça beau. Mais encore une fois, on a besoin de l'autre pour improviser.
D'une forme de contrainte.
Pour vous, l'autre, c'est une contrainte?
Oui, bah, c'est quand on joue ensemble, quand il y a un thème qui est imposé, quand il y a un tournage avec d'autres personnes, on n'est pas dans une liberté totale. J'ai l'impression que ce qu'on est en train de toucher du doigt, c'est l'idée que la vraie liberté qu'on goûte dans l'improvisation, aussi bien musicale que celle d'Edouard Baer ou que existentielle, c'est pas quelque chose qui se définit par l'absence de contrainte, mais qui se joue de la contrainte.
Exactement, c'est ça. On en a besoin. S'il n'y a pas la contrainte, on peut pas faire.
Donc vous êtes d'accord, bien.
Ouais.
Alors on va fêter ça avec une petite pause musicale.
Dopamine.
C'était la jolie voix traînante de Joy Cook's Feet Don't Fall Me Now.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Alors, on est toujours avec André Manoukian, sous le soleil de Platon. Alors, on est un peu gêné parce que Platon n'aimait pas trop la musique. Il voulait même chasser les poètes et les musiciens de la cité. Il les jugeait responsables du déclin d'Athènes. Quand on écoutait Joy Cook, vous m'avez dit un truc très, très beau qui, à mon avis, est essentiel pour comprendre l'improvisation et, au fond, la vie. Vous parliez d'une voix qui s'abandonne.
Ouais, d'une voix qui traîne, d'une voix comme ça. Et c'est ça qui nous plaît. Tout d'un coup, on se dit, waouh, là, bah voilà, il y a du lâcher prise, hein, pour reprendre un mot un petit peu à la mode. Cet état-là d'abandon est complètement nécessaire aussi à la musique. C'est ça le paradoxe. C'est que la musique, ça demande une science, ça demande de l'entraînement, ça demande l'entraînement d'un skieur qui ferait des, encore une fois, des piquets, du slalom spécial, etc. Puis ensuite, quand on est en pleine liberté, lâché dans la nature, là, pour le coup, il faut s'abandonner. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut détendre ses muscles, il faut prendre les bosses, les problèmes, les failles et tout comme des, je dirais, comme des obstacles sur lesquels rebondir. Et c'est ça qui va vous inspirer, qui va dessiner la courbe que vous allez faire finalement.
Mais pour que ça marche, il ne faut pas avoir peur de l'échec.
Non, il faut pas avoir peur de l'échec. Et justement, je vais même vous dire un truc. Je pense que moi, ce qui m'a sauvé dans la vie, c'est que j'avais pas peur d'être ridicule. Et quand on se lance, je me souviens que, ouais, même en classe, le prof de français qui posait des questions et tout, et puis de temps en temps, je disais. Et ça faisait rire les potes ou même le prof, enfin parce que parfois j'étais un peu à côté de la plaque et tout. Mais si vous n'avez pas peur de ça, ben c'est assez formidable finalement.
Mais ça me fait penser à une jolie phrase de Miles Davis que vous connaissez sûrement. Il était un peu ombrageux, un peu exaspéré par le fait que ses musiciens tremblent et aient peur de la fausse note. Et à un moment, il leur dit « Mais écoutez, il n'y a pas de fausse note. Quand vous jouez une note, seules les notes d'après permettront d'entendre la note que vous avez jouée. » Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de fausse note?
Ça veut dire que si vous l'acceptez, la fausse note, vous l'intégrez dans un truc et vous jouez, et encore une fois, si vous jouez avec, et effectivement, si vous la transformez avec les notes qui viennent après, elle devient super belle, elle devient comme une sorte d'accident, elle se transforme en pic, en acmé, et sur lequel vous rebondissez, elle se transforme en relief qui vous fait prendre votre élan pour aller ailleurs, quoi.
Une sorte de dissonance qui va faire la beauté, finalement.
Mais exactement.
Et c'est presque une leçon de vie. Hein.
Voilà, parce que ça va créer une tension, et cette tension, elle va aller vers une résolution. Et le jazzman, il aime bien jouer avec les tensions.
Ah oui, alors j'avais assisté à votre spectacle dans un théâtre parisien, j'ai oublié lequel, et j'avais été très marqué par cette définition de la résolution. Et ça m'avait semblé une belle métaphore de la vie. En fait, on n'arrête pas de faire des pas de côté, un petit peu bancal, en équilibre instable, et puis ça promet une résolution qui d'ailleurs parfois vient et parfois ne vient pas.
Exactement, c'était au théâtre de l'œuvre. Et alors donc, je parle du cas Wagner, par exemple. Avant lui, quand il y a une tension, il faut résoudre. Je raconte l'histoire de Jean-Sébastien Bach. Son fils joue du clavecin pour qu'il s'endorme, et il reste sur un accord tendu parce qu'il entend ronfler son père. Il quitte le clavecin en laissant cet accord suspendu. Ça réveille Bach, qui est obligé d'aller au clavecin pour résoudre.
Ah oui.
Le mot italien cadenza, ça veut dire le point, la fin d'une phrase. C'est comme si une tension non résolue, c'est comme si vous dites une phrase et vous restez sans dire ce qui va.
Ça peut être bien aussi.
Alors on est tous en attente, mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais qu'est-ce qu'il va dire effectivement? Et ce qui est bien, c'est que du coup vous créez une attente, et plus vous retardez la résolution, c'est l'art du suspense finalement, jusqu'à ce que vous alliez sur la conclusion. Et là, on sait que la phrase est finie.
On peut d'ailleurs ne pas conclure. Hein. Beaucoup de grands orateurs font ça, de digression en digression, de promesse en promesse, et puis ils laissent l'autre avec son imaginaire, avec sa réponse à lui.
C'est un peu notre spécialité à nous, ça, Charles.
D'ailleurs, on va écouter un son de Nina Simone. On va voir si elle est dans l'abandon ou pas. Mr. Backlash, I'm gonna leave you with the blues. Yeah. C'est incroyable ce rythme, ce balancement. Alors, résolution ou pas résolution, André Manoukian ?
Alors là, elle joue avec le déséquilibre qui s'équilibre et qui se déséquilibre à nouveau.
Ouais.
C'est le principe du rythme et c'est le principe du rythme, je dirais, que nous amènent les Africains dans notre musique occidentale. D'une certaine manière, c'est quand même vrai que le jazz est la rencontre de l'harmonie occidentale et des rythmes africains. Et du coup, ça veut dire quoi? Les rythmes africains sont plutôt ternaires. Ternaires, ça tourne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nous, en Occident, c'est plus carré. 1, 2, 3, 4. Et tout d'un coup, à l'intérieur des 4, si vous mettez du ternaire, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, vous faites tourner quelque chose qui était un petit peu carré, vous lui donnez vie, et c'est une pulse qui se balade entre deux états. C'est vraiment ce qu'on appelle le swing. Swing, ça veut dire danser, ça veut dire bouger. Ben, c'est quelque chose c'est une forme d'instabilité. Et pourtant, il faut être hyper régulier dans cette instabilité. Et du coup, c'est ça le paradoxe de cette musique qui nous prend, parce que tout d'un coup, à la fois, elle nous déstabilise. Quand on entend Nina Simone qui est là, qui fait même pratiquement des clusters sur son piano, c'est-à-dire des notes, et puis tout d'un coup qui résout, et puis
en même temps, il y a toujours un rythme qui est tenu.
Exactement.
D'où la métaphore, d'où la manière dont ça porte, au fond, une idée de l'existence. On bifurque, on rebondit, on s'envole, on est triste, on est joyeux, et en même temps, la vie continue. Finalement, ce rythme qui persévère dit ça, non ?
Il faut un cadre. S'il n'y a pas de cadre, ça ne marche pas, quoi.
Et tout ça, vous le racontez dans votre livre sur les routes de la musique paru chez HarperCollins, tout ça, vous insistez beaucoup avec simplement 12 petites notes. Comment c'est possible ?
Je ne sais pas. Moi-même, ça m'étonne encore. Notre vocabulaire de base... Remarquez, je sais pas, il y a combien de lettres dans l'alphabet, je sais jamais, 24 ou 26? 24? 26?
J'avoue, 26.
26. Avec 26 lettres, vous rendez compte tout ce qu'on a écrit et tout ce qu'on va écrire. Avec les notes de musique, c'est la même chose. Il y en a encore moins, mais il y a autant de possibilités.
Quand je vous écoute comme ça, parler si bien de la musique, j'ai quand même une petite question. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où elle montre sa limite aussi? Peut-être un moment où elle vous a même déçu.
La musique ?
Ouais, la musique.
Ah la vache, jamais, dis donc. Mais elle est bien, votre question, sans blague, elle est bien.
Il n'y a pas des moments où vous avez cherché dans la musique quelque chose que vous n'avez pas trouvé ?
J'ai jamais rien trouvé dans la musique. C'est pour ça que je continue à chercher. C'est ça qui est formidable. Le jour où vous rencontrez...
Vous avez trouvé de la joie, quand même.
Le jour où vous rencontrez un musicien qui vous dit « ça y est, j'ai trouvé », vous êtes sûr que c'est un tocard, quoi. Toute sa vie, on est en train de tirer sur un fil. Moi, je suis en train de relever des solos d'un pianiste incroyable qui s'appelle Alfredo Rodriguez, un pianiste afro-cubain. Je dis mais comment il fait, l'enfoiré? Je l'insulte tous les matins. Ou alors Brad Meldo avec une espèce de phrase mais tellement belle qui a out et qui revient. Et je dis mais comment il fait, cet enfoiré? Ouais. J'insulte ces musiciens tous les matins. Je leur en veux. Je suis jaloux. Je les déteste. Ça me fait revenir comme un gosse de 5 ans. J'ai l'impression d'être humilié.
Et puis parfois c'est simple. Ça a l'air simple aussi. Ça a l'air tellement... Même une chanson, je sais pas, Perfect Day de Lou Reed, et qui ne suce pas, comment ça se fait, quoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé, justement? Est-ce qu'il a trouvé quelque chose?
Ouais, là, on est dans l'abandon. On est dans la drogue, le rock'n'roll. Il faut le dire, hein. Moi, quand j'étais môme, on étudiait ça. Je veux dire, ce qu'amenait la drogue par rapport à... Je suis pas en train d'en faire l'apologie, loin de là, mais cette idée tout d'un coup d'abandon et tout ça... Bon, après, les gars, ils survivent pas longtemps non plus. L'idéal, c'est de se mettre...
Il a tenu longtemps.
Il a tenu longtemps. Mais l'idéal, c'est de se mettre dans cet état...
Celles et ceux qui sont morts d'overdose à côté de lui, malheureusement, ont tenu un peu moins longtemps, il faut le dire.
Ben, c'est ça. Mais après, c'est... Du coup, ça fait partie de cette espèce de... Ouais, cette idée d'abandonner, on sait très bien que certains psychotropes font que vous n'avez tout d'un coup plus conscience de vous, vous avez plus vos problèmes, il n'y a plus rien qui vous empêche, et voilà. Se mettre dans cet état-là sans la drogue, c'est encore mieux, et ça demande encore plus de boulot.
Vous avez parlé très joliment de tout ce qu'il a fallu désapprendre, après avoir appris, de la manière dont on s'abandonne après avoir voulu tenir, au fond, se maîtriser. Ce lâcher prise, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs pour réussir à l'atteindre?
Je dirais une forme de... aller au fond de la note, quoi. Ouais, on rentre dans une forme de méditation, peut-être même de yoga. Je me souviens que mon premier cours de piano, j'ai 6 ans, le professeur Alexandre Cyranossian, il nous fait lever les mains comme ça, et puis les poser sur nos jambes en disant ouf. On lève les mains, on les repose, ouf. On a fait ça pendant une demi-heure. Je dis, mais il est fou. Et pendant une demi-heure, il a crié de la frustration puisque j'ai pas touché le clavier. Et 20 ans plus tard, mon prof à Berkeley, quand je m'en vais, il me donne un bouquin en disant, tiens, et moi, je pensais qu'il allait me donner des accords, des secrets. Et c'est un bouquin de yoga. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut respirer. Quand je monte
sur... qualité de présence aussi?
Alors, la qualité de présence, exactement, c'est-à-dire être complètement sur soi-même. J'ai rencontré 2 musiciens qui font ça tellement bien, qui vous mettent dans cet état. Le premier, c'est Gustavo Santaolalla, qui est un compositeur de musique argentin et qui joue du cavaquinho. C'est un tout petit banjo, une toute petite mandoline. J'étais à Buenos Aires au Théâtre Colón, on l'interview, et puis à la fin, il me dit, on va jouer quelque chose, moi je suis au piano. Tout d'un coup, il baisse la tête comme ça. Et il fait un accord comme ça, franchement, hein, d'une mandoline. Et ça m'a mis dans un état, et du coup, chaque note que je faisais... Et la deuxième qui m'a fait ça, c'est Mélodie Gardot. Elle chante tellement doucement que tout d'un coup, vous êtes obligé de déployer tous vos sens pour ne rien perdre de ce qui va se passer. Et elle vous met dans un état... tout d'un coup, qui est entre, je sais pas, la sérénité, mais plus rien n'existe autour. Et ça, c'est formidable. Donc la technique, c'est tout d'un coup, pour provoquer cette attention-là, ben, c'est de parler doucement, c'est d'être extrêmement doux.
Quel est le rapport aux autres? Par exemple, quand vous êtes en concert, pour arriver à cette qualité de présence, vous vous accrochez aux autres, au regard des autres, ou vous êtes plutôt en vous-même?
Non, il faut respirer un grand coup, et puis convoquer je sais pas quoi. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont des rituels un petit peu avant de rentrer. Si vous vous mettez à penser aux autres, vous voulez leur plaire. Si vous voulez leur plaire, vous vous mettez à jouer vite. Si vous balancez la purée tout de suite, vous faites quoi après? C'est impossible. Donc il y a vraiment tout un travail d'apprentissage à faire, à retoucher. La méthode que je dirais, c'est commence tout doucement avec 3 petites notes et n'aie pas peur des silences. Et c'est pour ça que Miles Davis reste un maître absolu, c'est celui qui jouait le mieux avec les silences.
N'ayons pas peur des silences, n'ayons pas peur de la fausse note aussi, n'ayons pas peur de l'échec. Merci beaucoup André Manoukian de nous avoir rejoints sous le soleil de Platon ce matin. Et pour vous remercier, je vais essayer de définir votre philosophie de la vie pour nos auditeurs telle qu'elle est apparue ce matin dans cette petite balade improvisée. Alors comment dire, est-ce qu'elle est apollinienne ou dionysiaque ou les deux? Est-ce qu'elle est déterritorialisée et en même temps ancrée dans un désir? On a l'impression que vous avez envie de vous amuser, mais aussi d'improviser, et puis que vous cherchez, vous l'avez très bien dit, hein, je ne trouve pas, je cherche. On a l'impression en vous d'une sorte de quête à la fois ludique et essentielle, aussi d'un art du passage, comme ça, de la transmission. J'ai d'ailleurs oublié de dire qu'en plus de votre livre sur les routes de la musique, vous avez aussi sorti récemment un album de reprise de Gainsbourg avec que des femmes qui chantent et qui trouvent cette belle qualité de présence, cet art comme ça de l'instant, cet art de l'être ensemble. Cette manière aussi, on n'en a pas parlé, mais je l'ai beaucoup entendu, de chercher sa singularité. Voilà, mieux vaut se planter à sa manière que de réussir comme tout le monde. Merci André Manoukian de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon.
Merci Charles, c'est une belle feuille de route là que vous m'avez tracée. Là. Je vais essayer de m'y tenir en tout cas.
J'espère, on en reparle bientôt. Cette émission a été réalisée par Alicia Vullo avec à la technique Alix Barrois, à la programmation musicale Thierry Dupin, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins à 10h sous le soleil de Platon.